Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
C'est un cinquième numéro dans cette série des clés pour vivre sur la petite voie de Thérèse de l'Enfant Jésus et puis un complément dans ce nom qui est toute la mission aussi de Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Intervenant, c'est frère Jean-Gabriel. Bonjour frère.
Bonjour, bonjour Nathalie.
Alors prieur du couvent des Carmes à Toulouse, spécialiste. En fait, c'est la deuxième femme de votre vie après votre maman. Vous nous avez fait cette confidence pour terminer, je dirais avec un peu de légèreté.
Il y a la Vierge, il y avait la Vierge Marie aussi, j'ai oublié.
Ne l'oubliez pas. Donc, oui, mais c'est votre mère aussi.
Bon, c'est notre mère, du ciel.
Elle vous comprend.
Ouais.
Nous fêtions, donc, c'était l'ascension hier. Cette ascension nous conduit aussi à prendre un ascenseur, figurez-vous.
Ouais,
vous êtes d'accord?
Ah bah tout à fait.
Oui,
je trouve que c'est idéal, le temps est venu de parler de l'ascenseur de
tout
Thérèse après l'ascension. C'est extraordinaire.
Ouais. Quelle programmation.
C'est vraiment, oui, voilà, ça c'est la programmation du ciel. Ça,
tout à fait.
Voyez.
Alors, on programme, parce qu'il nous reste, le temps est très court.
Ouais.
Thérèse qui dit, et je vous cite, et vous citez Thérèse, page 32 dans votre ouvrage, paru aux éditions du Carmel, hein, l'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras. Oh Jésus, c'est dans le manuscrit A, et puis on invite aussi les auditeurs qui méconnaissent peut-être encore ou très peu
à lire les manuscrits autobiographiques, ce qu'on appelle encore l'histoire d'une âme, mais qu'on appelle plus volontiers le manuscrit autobiographique depuis qu'ils ont été dépoussiérés par le père François de Sainte-Marie.
Voilà, alors ça y est, on prend l'ascenseur aujourd'hui avec Thérèse.
Alors prendre l'ascenseur avec Thérèse,
qu'est-ce que ça signifie
la
signification de cet ascenseur de Thérèse.
On a déjà vu, vous voyez, avec Thérèse, qu'il fallait se maintenir que la petitesse n'était pas un obstacle. Précisément parce que, si vous voulez, moi je dis toujours, l'ascenseur avec Jésus, il descend au sous-sol, au premier, même au cinquième ou vingtième ou au trentième sous-sol, vous comprenez. Mais il descend là où on en est, si vous voyez. Il ne s'agit pas justement de compter sur ses propres mérites préalables pour faire descendre la grâce. Parce qu'en fait, il s'agit de ça pour que l'Esprit Saint, finalement, les bras de Jésus, vous savez, les deux bras du Père, hein, c'est comme pour parler comme Saint Irénée, c'est le Père, c'est le Fils et l'Esprit Saint, hein, les deux bras du Père. Rembrandt va s'en souvenir quand il peint l'enfant prodigue, vous savez,
qui est magnifique.
Ouais, il y a les deux mains qui reposent sur l'enfant prodigue, une main qui est maternelle et une main paternelle, vous voyez, les deux mains du Père, vous voyez, parce que l'Esprit Saint est la plus maternelle des personnes divines, si on en croit le curé d'Ars lui-même. Bon, voilà. Mais, vous voyez, c'est donc ces deux bras, les bras de Jésus, qui vont élever jusqu'à lui, hein, parce que la sainteté, ce qui est extraordinaire chez Thérèse, c'est que la sainteté, c'est Jésus lui-même. Si vous voyez, la sainteté, c'est pas quelque chose, c'est pas, vous voyez, la sainteté, c'est quelqu'un. Et le christianisme, le centre du christianisme, c'est Jésus, c'est le Christ.
En fait, c'est tout le mystère de l'incarnation fêté à Noël, et on rejoint Thérèse dans ces marches d'escalier et la grâce de Noël et la compréhension de l'ascenseur.
De l'ascenseur qui est en fait la compréhension de ce que produit la foi, la connaissance de la foi, qui est une connaissance intime qui nous unit au Christ. Voyez, et qui nous transforme en lui. Comme dira Thérèse dans son acte d'offrande, le feu transforme toute chose en lui-même. La foi est une connaissance transformante, voyez, justifiante, transformante, sanctifiante, unissante, je ne sais pas comment dire, mais vous voyez bien que c'est de l'ordre de la passivité pour nous, davantage que de l'acte, c'est de la passivité au sens de réceptivité. Vous voyez, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien de notre part, parce que justement, on l'a bien vu, il y a notre liberté qui est engagée. Je dois redire oui à l'ascenseur. C'est-à-dire que pour monter, il faut quand même appuyer sur le bouton, si vous voulez, hein, vous voyez, de l'ascenseur, et puis de monter dedans, quoi. Et vous voyez, donc, si vous voulez, mais l'ascenseur, il descend là où on en est, vous voyez. Hein, l'ascenseur n'est pas le Christ n'est pas révulsé par nos péchés, par notre misère. Au contraire, il est venu pour nous en sauver, pour nous en guérir de notre misère. Voyez, donc, mais c'est un sauveur. Et il vient nous sauver précisément de notre misère, cette misère spirituelle, qu'on appelle le péché originel, qui est une rupture filiale avec Dieu, hein, que rappellera la parabole encore de l'enfant prodigue, magnifique parabole, où justement Dieu nous attend, mais c'est nous qui ne voulons plus de lui. Vous voyez, c'est pas l'inverse. Dieu est toujours, il est amour, donc il est amour et miséricorde, comme dit Thérèse. Donc il ne peut pas nous rejeter. Voyez, il ne peut nous rejeter que si nous le rejetons. Voyez la phrase de saint Paul qui est magnifique. Si nous sommes infidèles, Dieu lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Magnifique phrase. Mais attention, si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Qu'est-ce que c'est que rejeter Dieu? C'est de voir sa lumière et de dire, j'en ai pas besoin, je veux pas. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est, mais par contre, être infidèle, on l'est toujours, tous les jours, on est infidèle. Le péché est une infidélité. Enfin, vous voyez, on est infidèle à l'amour infini de Dieu. D'ailleurs, le péché, c'est justement de confier humblement qu'on n'est pas à la hauteur. Bah, bien sûr, on n'est jamais à la hauteur de ce Dieu d'amour qui a en plus voulu mourir pour nous et dans quelles circonstances, hein. Le linceul de Turin est là pour nous le prouver.
Pour nous le rappeler. Hein,
pour nous le rappeler. Oui. Donc, vous voyez, on est dans un amour infini. Une incandescence d'amour, un foyer d'amour infini, on ne sera jamais à la hauteur de Dieu. Donc ce que Dieu nous invite surtout, simplement, c'est entrer dans l'ascenseur. Autrement dit, entrer dans le foyer brûlant de son amour. Oui, c'est ça.
Alors, qu'est-ce qui freine, frère Jean-Gabriel,
l'orgueil. De...
Voilà, voilà, je voulais y venir puisque c'est vous le détaillez aussi dans cet ouvrage.
Hein. J'ai parlé déjà du péché originel. Il faut bien s'entendre. Le péché originel résume en fait tous nos péchés qui sont finalement des désirs de s'affirmer devant Dieu sans vouloir l'écouter. Hein, c'est pour ça d'ailleurs que la loi divine révélée à Israël en premier, le schéma Israël, c'est schéma Israël, la premier commandement, c'est écoute. Et donc, et la foi est de l'ordre de l'écoute. Alors, est-ce que tu vas finir par m'écouter? C'est-à-dire par m'obéir, parce que écouter à audire, c'est obéir, c'est écouter Dieu, vous voyez, c'est placer son oreille tout près de Dieu pour voir ce qu'il a à nous dire. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Il a à nous dire que tout n'a pas commencé avec le péché, tout a commencé avec ce formidable désir qu'a Dieu de se communiquer à nous et de nous faire participer à lui. Ça s'appelle la création. La création de l'homme et de la femme, je suis désolé, Dieu n'avait pas besoin de créer, il a voulu nous créer parce que justement, pour nous, pour qu'on puisse justement participer à cet amour. Mais attention, c'est une grâce. Si je veux plus de la grâce, si je veux plus du cadeau de Dieu, et ben à ce moment-là, ben le Seigneur nous abandonne à nous-mêmes, à notre choix. Vous voyez, c'est tout simple, c'est ça le péché originel. Ce que nous décrit Genèse 3,
c'est le début de l'histoire.
C'est le début début, encore une fois. Le tout début, il y a un avant-péché, mais c'est le début de la rupture. C'est le signe de la rupture, vous voyez. Mais avant, justement, il y a une vie, heureusement, une vie qui est, on voit bien dans l'Éden, etc., cette espèce de vie paradisiaque,
qui est perdu.
Maintenant, c'est le ciel qui est retrouvé. Le paradis est perdu, mais le ciel est retrouvé. Hein, donc c'est en avant maintenant, c'est-à-dire dans l'espérance de la vie éternelle.
Et c'est ce que nous rappelle aussi le génie de Thérèse. Hein. Ouais. Elle nous montre, je dirais,
mon ciel est ma seule patrie. La petite Thérèse est obsédée par le ciel. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça la grande épreuve de, on y reviendra, la nuit de la foi
on
de Thérèse.
Retrouve, hein.
En fait, c'est une nuit d'espérance.
Donc, au fond, au cœur de cette grande nuit de la foi de Thérèse, de ses ténèbres, elle est au cœur de toute la lumière.
Absolument.
Il est si près.
Absolument. Il est à côté, mais elle ne le voit pas, mais elle fait quand même des actes de foi pour vouloir croire. Donc, elle n'a plus le sentiment de la foi.
Est-ce qu'on peut parler d'un héroïsme dans ces temps, ténèbres profondes pour Thérèse?
Un héroïsme, mais qu'elle vit dans la paix, elle le dit bien.
Et pour les âmes, en vue du salut des âmes. On développera
absolument.
Aussi, je dirais.
Oui, parce que là, on n'en parle plus non plus du salut des âmes.
Le zèle pour le salut des âmes,
on n'en parle plus du tout.
C'est bien ce qui a fait rentrer aussi Thérèse au Carmel à l'âge de 15 ans.
Je suis rentré au Carmel pour sauver les âmes et surtout les âmes des prêtres. Aussi.
Et oui, on y reviendra la semaine
prochaine.
Pour prier pour les prêtres.
Parce qu'elle savait qu'elle avait découvert que finalement tous les prêtres n'étaient pas des saints.
Lors de son voyage d'Italie, elle demande,
il faut accomplir ça aux lecteurs, ils doivent le savoir. Elle vient voir, elle, à 15 ans, elle se fait un chignon pour se vieillir. Oui. Et donc, elle va avec, à l'audience, donc, de Léon XIII, un immense pape, Léon XIII, et qui, Mais qui est très vieux déjà. D'ailleurs, Thérèse ira. Il est tellement vieux qu'on dirait qu'il est mort. Elle avait beaucoup de. Elle avait beaucoup d'humour.
On disait
d'elle comique et mystique, tout lui va. Donc, voyez.
Ce qui vérifie aussi la qualité de cette vie mystique.
Oui, absolument. Un saint triste est un triste saint. Je suis désolé. Bon. Et donc, Thérèse va voir au pied de. Donc, elle va en Italie, etc. Je pense que c'est là aussi qu'elle a découvert les ascenseurs avec sa sœur. Moi, je les vois tout à fait dans les hôtels. Descendre, monter avec là, parce
fait,
que
oui.
C'était les deux petites jeunes expiègles. Hein, elles vont escalader les palissades des martyrs du Colisée pour aller gratter de la terre des martyrs chrétiens. Elles ramènent et tout ça lorsque le guide a le dos tourné. Enfin, on voit ça, c'est extraordinaire. Elle le raconte. Hein. Et si vous voulez, Thérèse a découvert aussi au cours de ce pèlerinage qu'il y avait aussi de l'égoïsme chez les prêtres. Voyez, et donc, elle va aussi prendre en charge les grands pêcheurs. Hein. Il va falloir qu'on parle de Prandini, bien sûr. Hein,
donc,
ça, c'est incontournable. Le premier enfant de Thérèse.
On peut parler de cette fécondité de sa maternité.
Fécondité spirituelle.
Tout à fait. Alors on en parle et on poursuit. Et puis on garde
la semaine prochaine.
La semaine prochaine, si vous voulez bien.
Ouais.
Donc dès la semaine prochaine, on vous retrouve avec la petite Thérèse de l'enfant Jésus. Et de la Sainte Face.
Il n'y a pas la conjonction, Nathalie.
Ah oui.
De l'enfant Jésus, de la Sainte Face.
Oui.
Il n'y a pas de conjonction.
Ah oui.
Les deux mystères sont liés.
Ah oui, oui, oui. L'un dans l'autre.
L'un dans l'autre.
Tout à fait.
De la crèche à la croix,
voilà,
disait
Edichstein.
Oui. Et puis Saint François d'Assise.
Bon, on n'en finit plus.
Oui, on n'en finit plus.
Donc,
les saints se rejoignent. Hein.
Voilà, on finit cette petite voix aujourd'hui pour retrouver la voix de Thérèse de Lisieux, docteur de l'Église, dès la semaine prochaine. Merci, frère Jean-Gabriel.
Merci de me donner d'être la voix de la petite voix. Oh,
c'est bien dit. Merci.